Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société, avec une petite toux, excusez-moi, ce sera notre troisième invité aujourd'hui, parce que les deux autres, vous les connaissez, Frédéric Lapointe est en studio avec moi, président du Mouvement national des Québécois. Bonjour Frédéric Lapointe. Et Rémi Villemur est à distance, au téléphone, cette vieille technologie sur laquelle on se fie encore, puis évidemment, un homme attaché au passé comme Rémi Villemur, on n'est pas surpris qu'il utilise le téléphone. Bonjour Rémi Villemur.
Bonjour à vous deux, le téléphone à roulette.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, vous avez le son vraiment. Voilà, du professeur Barbanzinck dans Bobineau et Bobinette, là, pour ceux qui sont plus vieux. Bonjour, Rémi Villemur. Merci de participer, même de loin, à l'émission. J'ai envie de commencer avec vous deux. Tiens, avec vous, Rémi Villemur, sur cette déclaration assez formidable de François Legault cette semaine. Alors, j'y arrive. Voilà. C'était sur Twitter. Monsieur Legault s'exprimait sur la troisième voie, hein, c'est-à-dire ce sur quoi l'ADQ et puis la CAQ ont fait leur pain et leur beurre politique. Donc, ni l'indépendance, ni le fédéralisme, mais le chemin du compromis entre ces deux, ce qui serait deux extrêmes. Voilà. Donc, François Legault parlait de ça, notamment parce que le thème est dans l'air ces jours-ci. D'abord, c'est dans l'air depuis que la CAQ gouverne et qu'elle essaie de mettre en pratique ce nationalisme provincial avec plus ou moins de succès selon les dossiers. Puis aussi, dans les derniers jours, il y a un livre qui a été publié pour refaire l'histoire un peu de la troisième voie dans les dernières décennies à travers la DQ et la CAQ. Ceux qui ont écrit ce livre, notamment, sont il y a Pascal Maillot, hein, un ancien, je crois, de la DQ, mais aussi un ancien proche conseiller de François Legault. Alors, toujours est-il que François Legault sort sur Twitter et dit ceci. Rémi Villemur et Frédéric Lapointe, entre le rêve du pays qui mène le Québec dans un cul-de-sac et l'abandon complet de ses aspirations en tant que nation, la troisième voie, avec toutes les difficultés qu'elle rencontre et les compromis qu'elle implique, représente peut-être malgré tout la moins pire des options pour le Québec. Alors je reviens ici là. La troisième voie représente peut-être malgré tout la moins pire des options pour le Québec. Est-ce que trouvez-vous, Rémi Villemur, qu'on devrait faire de ça désormais la maxime de la nation québécoise?
Je suis vraiment ravi que vous ameniez le sujet aujourd'hui parce que hier soir, j'ai lu cette phrase-là et je me suis dit, on vient peut-être d'assister à un moment important dans le deuxième mandat de François Legault. C'est sans doute la pire déclaration politique que j'ai entendue de lui depuis qu'il est revenu en politique en 2018. Sincèrement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi pire que ça.
Pourquoi?
Écoutez, ben parce que, regardez, on va pas reprendre la phrase, le passage au complet, là, mais il parle d'un...
Moi, je vais le faire, moi. Peut-être, malgré tout, la moins pire des options pour le Québec. C'est un beau projet. Ça donne envie d'avenir, ça. Mais allez-y, continuez, Rémi.
Ben, c'est parce que, évidemment, il y a ce passage-là qui est problématique parce que ce qu'il est en train de nous dire, finalement, c'est que son projet, c'est la moins pire des options. Donc, ça veut dire que c'est même pas une bonne option. C'est même pas la meilleure des options. C'est la moins pire. Donc, là, vraiment, si on ressent pas l'ampleur de la fatigue chez cet homme-là, l'ampleur du désespoir qui habite la CAQ, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ressent d'autre que ça. Puis il y a pire que ça aussi. Il dit finalement que la troisième voie rencontre des difficultés, qu'elle doit faire des compromis. Donc, il n'y a aucune affirmation de force, aucune affirmation de succès et d'efficacité dans la politique de la CAQ. On est comme en train d'admettre qu'il va falloir rencontrer des difficultés, il va falloir faire des compromis et ce sera la moins pire des options. Et en plus, il nous dit que le rêve du pays nous mène dans un cul-de-sac. Mais ça veut dire que c'est comme s'il envisageait seulement qu'on puisse perdre le référendum. Parce que j'ai quelque chose à lui apprendre. Peut-être qu'il l'ignore, M. Legault, aussi. Il faut lui rappeler seulement. Si on fait l'indépendance, on n'ira pas dans un cul-de-sac. Il y a une clairière qui va s'ouvrir devant nous.
Oui, mais peut-être, Rémi Villemur, que pardon, je coupe votre élan souverainiste, c'est terrible, je suis désolé, mais j'allais dire que peut-être que ce que du cul-de-sac dont parle François Legault, c'est de l'impossibilité hein, de gagner un référendum et de l'espèce de confiscation du débat politique dans une opposition qui ne finit jamais entre souverainistes et fédéralistes. C'est un peu ce qui était le discours de François Legault depuis longtemps et de bien des péquistes avant Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut le dire aussi. Hein.
Oui, mais bon, on nous permettra quand même de rappeler que dans un référendum, le oui peut quand même l'emporter. C'est au moins une des deux options, hein, et c'est pas la moins pire des deux, c'est même la meilleure. Donc, écoutez, c'est un moment important quand même, je pense, dans le mandat, de voir que M. Legault est très fatigué, là. Il y a un épuisement total dans cette déclaration-là. Et je pense que s'il est fatigué, il faut qu'il laisse sa place. C'est pas une option que j'avais envisagée dans les derniers mois, mais là, s'il est vraiment épuisé à ce point-là, il faut qu'il laisse sa place, il faut qu'il pense à l'avenir du Québec, parce que on n'a pas besoin d'un homme épuisé au pouvoir, on a besoin d'un homme plein d'énergie.
Frédéric Lapointe, on a parfois lu, ou on s'est rappelé avec un certain sourire en coin, la déclaration de René Lévesque qui parlait du Québec qui est peut-être quelque chose comme un grand peuple, hein, cette espèce de toujours d'entre-deux ou d'atermoiement ou d'euphémisme, comment dire, en tout cas de regard euphémique sur les choses peut-être, ou de mi-chemin, ou de difficulté à pleinement être fier de nous comme Québécois. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans la déclaration de François Legault, ou est-ce que c'est autre chose? Rémi Villemur est très, très critique. Il y a un grand homme politique américain qui parlait de la démocratie, ou était-il britannique, je ne sais plus, comme étant le moins pire des mauvais systèmes. Ou
oui, je crois que c'est pas Churchill.
Mais on a trouvé que c'était plein de sagesse, ouais, et formidable. Ouais, ouais. C'est peut-être la même chose. C'est peut-être notre Churchill, ici, François Legault, qui dit, nous sommes peut-être malgré tout dans la moins pire des options pour le Québec.
Oui, c'est la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres.
Hein, ah, c'était ça.
Quelque chose comme ça. Ouais. Il me semble que
en fait, Rémi Villemur nous dira Churchill. C'était de qui.
Oui. François Legault est en plein dans sa troisième voie lorsqu'il dit de telles choses. Hein, c'est le ni l'un ni l'autre, la volonté de ne pas décider. Et en cela, il est, j'oserais dire, très enraciné dans la culture politique canadienne-française populaire. Hein, notre histoire, on la voudrait autrement, mais notre histoire n'est pas pleine de mobilisation décisive. Hein. On est plutôt, quand on la regarde lucidement, dans un grand nombre de d'entreprises patientes, de construction d'institutions, de revendications politiques, et on a de très nombreux gains qui se sont produits au cours de notre histoire, mais on peut pas dire que notre histoire est marquée par des mobilisations majoritaires très nombreuses. En fait, plus souvent qu'autrement, lorsque ça se met à chauffer, le bon Canadien-Français, peut-être avec un souvenir viscéral l'incroyable défaite de la conquête, qui a été à l'époque très dure. Hein. Faut se souvenir qu'à l'époque, nous étions une société très militarisée, très gagnante, très guerrière, et que la conquête a été ni plus ni moins que l'écrasement.
Vous dites qu'il faut s'en souvenir, mais on s'en souvient pas vraiment.
On s'en souvient pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'on l'a viscéralement, que c'est quelque part dans nos tripes, ou en tout cas qu'il n'y a pas autre chose qui a remplacé ça dans nos tripes. Et donc, les appels à la prudence, à la soumission rusée, c'est quelque chose qui peut résonner. J'oserais dire que c'est probablement une des cordes sensibles de la population. Je serais pas surpris, moi, qu'avant de dire de telles choses, François Legault et son équipe aient tâté et mesuré le pouls de la population.
Des groupes témoins et des.
Oui, moi non, je serais pas sondages. Surpris. Cela étant, est-ce que j'ai à le déplorer?
On est allé
ou pas?
Chez Ashton tester sur le terrain.
c'est sa stratégie. Je constate que c'est une façon à l'approche d'une polarisation accrue, parce que c'est un peu ça qu'on observe avec la montée du Parti québécois. C'est une forme de polarisation. Alors, il aurait pu choisir d'être dans un mode ultra-fédéraliste. Il aurait pu choisir de prendre de la distance et de simplement laisser cette polarisation s'installer, mais il joue la carte de sa famille politique. Moi, je suis, ben là, c'est très personnel, ça correspond à la position de mon mouvement aussi. Je suis pas certain que l'indécision est ce qui est porteur en ce moment. Le Québec, je pense que Rémi Villemur reflétait ce sentiment-là. On a besoin d'afficher de la force de conviction, on a besoin d'afficher de la certitude dans la durée. Et cette certitude dans la durée, on en a besoin pourquoi? Parce qu'on a des millions de personnes qui vont se joindre à nous. Et si ce à quoi ils font face en arrivant au Québec, c'est à une gang de défaitistes désorganisés et sans énergie, ben effectivement, ça leur tentera pas de jouer pour notre équipe.
Rémi Villemur, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Si je comprends bien votre pensée. Vous nous dites qu'il y a quelque chose de nouveau là, là-dedans. François Legault qui nous dit que le référendum et l'indépendance sont un cul-de-sac qui nous coûte cher et que le fédéralisme est aussi un cul-de-sac où il ne faut pas aller. Ça, on avait déjà entendu ça. Mais qu'on reconnaisse que la troisième voie, finalement, n'est qu'une sorte de d'option moins pire, mais pas forcément glorieuse, ça c'est nouveau. Diriez-vous les choses comme ça?
Oui, tout à fait. Ça fait déjà des mois, voire deux ans, qu'on entend François Legault au Salon Bleu répondre aux souverainistes que le référendum, il faut le craindre comme on craint le bonhomme 7 heures. C'est la meilleure imitation de Jean Charest. On commence même à les confondre quand on les regarde aller. Sauf que là, il y a quelque chose de relativement nouveau dans une posture qui est complètement défaitiste, hein, et qui a le parfum de la capitulation. C'est comme si on venait de remarquer, là, tout bonnement à la CAQ, que, en fait, ça ne fonctionne pas du tout. À chaque fois qu'on va à Ottawa, c'est un refus qu'on essuie. Et là, il faut renouveler le discours et la façon de présenter ça aux Québécois. Donc, les Québécois ne sont pas dupes, hein, qu'ils soient fédéralistes ou souverainistes, ils savent que ce sont des défaites et des défaites à coup sûr. Donc, comment on fait pour vendre ça aux Québécois? Ben, on leur dit, écoutez, on a compris qu'on allait perdre. On a compris qu'on allait perdre notre poids dans le Canada, qu'on allait nous imposer une immigration, qu'on n'allait pas nous écouter, qu'on n'allait pas nous renvoyer l'argent. Mais c'est la moins pire des options.
Ça pourrait être pire. Notre nouvelle devise. Ça pourrait être pire.
Ben, écoutez, lancez pas trop ça dans les airs, parce que vous pourriez être surpris, Nick Payne, vous allez être entendu.
Rendons à César ou à Martineau, ce qui lui revient. Je pense que c'est Richard Martineau qui a suggéré ça il y a quelques mois. Ça pourrait être pire. Ou ça pourrait plus mal aller, quelque chose comme ça.
Ça lui ressemble, on salue Richard Martineau d'ailleurs. Mais écoutez, c'est intéressant ce que disait Frédéric Lapointe, hein, le détour nécessaire par l'histoire, par la condition des Canadiens français à la suite de la conquête. J'aimerais quand même rappeler qu'il y a eu une histoire avant la conquête. Frédéric Lapointe ne l'ignore pas, évidemment. Et avant la conquête, nous étions quand même beaucoup plus vigoureux. Hein. Il faut lire l'œuvre de Milbert où il parle de nous comme des infatigables Canadiens, des géographes sans compas, des gens qui avancent sans les moyens et sans les outils, mais qui avancent tout de même. Et le rôle des nationalistes, qu'ils soient autonomistes ou souverainistes, c'est de nous sortir de notre condition. Hein? Alors, quand je lis François Legault, qui se présente encore obstinément comme un nationaliste, nous dire que c'est la moins pire des options, que nous allons devoir faire face à des difficultés et nous plier à des compromis redondants, mais j'ai envie de lui dire, votre travail, M. Legault, c'est de nous sortir de ça. Hein? Notre condition, elle s'appelle condition jusqu'au jour où on a le courage d'en sortir. C'est ce que l'évêque appelait l'audace tranquille.
Alors, on est loin du coureur des bois qui avance
vers l'inconnu.
Vers l'inconnu, voilà. Dans la forêt, avec détermination, machette à la main, je ne sais quoi. Mais Rémi Villemur, je reste avec vous un instant. À moins que nous soyons, nous trois, ce matin, ce midi, par ma faute, je le reconnais, en train de tomber dans un piège. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être finir par s'y faire. François Legault sort le thème de l'identité de la nation et, dans ce cas-ci, de la troisième voie, comme par hasard, peut-être, là, souvent, lorsqu'il faut changer de sujet un peu dans le débat public. Puis, au fond, ça ne mène jamais à rien. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer ce jeu, justement, de parler en pure perte de cette question, alors qu'au fond, il n'y a pas grand-chose qui a changé et qui changera?
Non, ben je pense qu'on fait notre travail, on analyse une conjoncture. En ce moment, il se trouve que le Parti québécois monte dans les sondages, commence à se hisser de façon assez confortable et assez durable. La question de la souveraineté revient, donc la question du régime revient. On n'a pas le choix de se poser la question, à savoir quelle est l'option qui va nous permettre d'améliorer le sort des Québécois. Et François Legault, je trouve que, honnêtement, j'aimerais ça faire aller mes contacts la semaine prochaine et essayer de comprendre pourquoi on remonte avec cette idée-là de troisième voie, parce que c'est pas ce que les Québécois ont besoin d'entendre en ce moment. La troisième voie ne fonctionne pas. Il serait quasiment mieux de nous dire qu'il bascule du côté fédéraliste, ça serait assez surprenant, mais il serait quasiment mieux de nous dire ça pour dire, face à l'indépendantisme, il y a quand même le fédéralisme, et le fédéralisme, ça veut dire se rapprocher d'Ottawa, ça veut dire peut-être aller faire des gains par la porte en arrière, parce que la troisième voie, il n'y a rien de plus impopulaire que ça au Québec en ce moment-là. Je ne dis pas au niveau de l'humeur des Québécois, mais au niveau technique, c'est la troisième voie.
Pour plusieurs,
2018,
c'est même la troisième voie au sens de la gouvernance, hein, entre les péquistes et les libéraux, au fond. Hein. On attendait, par exemple, à Québec, on attendait un gouvernement moins dépensier, plus efficace, face de la CAQ, hein, parce que c'était l'héritier de l'ADQ, et puis c'est pas ça du tout qui arrive. Alors, pour bien des gens à Québec, notamment, c'est cette troisième voie-là qui est un échec, au fond. On retrouve une sorte de PQ 2.0 à leurs yeux, en tout cas.
Il faut pas non plus sous-estimer l'espèce d'esprit de célébration là qui les caquistes attendaient depuis quelques années, ce 30e anniversaire de l'ADQ, la sortie de ce livre-là chez Boréal là, par Pascal Maillot. Je pense qu'on est en train de se faire un petit party, mais il y a personne qui a envie d'y aller. Moi, je regarde les photos de François Legault là qui se promène dans il est allé dans la circonscription de Monsieur Lemieux la semaine dernière, et on se serait cru durant la l'espèce de visite des régions des libéraux là. Vous vous rappelez l'été dernier là, on prenait des photos, puis il y avait 5 personnes là, puis on prenait un angle pour laisser croire qu'il y en avait peut-être 5 autres en arrière de la caméra, mais il y a pas beaucoup de gens là en ce moment au party. Ben on essaye de s'amuser un peu, on sait que la fin approche.
Frédéric Lapointe, la question que j'ai posée au début de cette partie de notre conversation à Rémi Villemur, au fond, là, si je la formule autrement, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi François Legault sort-il comme ça de façon assez marquante sur la question de la troisième voie maintenant? Aujourd'hui, j'amenais l'hypothèse de la volonté de faire du bruit pour changer de sujet. Vous trouvez que je
simplifie? Je pense que il y a de ça. Il est en mal de redéfinition politique. Parce que en ce moment, si son gouvernement est le gouvernement du déficit et le gouvernement de la croissance des dépenses et le gouvernement des promesses rompues, il n'y a aucun avenir pour ça. Alors, il doit s'accrocher à son identité. Et son identité, oui, de ce point de vue-là, la filiation avec l'ADQ est intéressante. Je pense qu'ils ont aussi le souci de prolonger cette filiation dans le temps vers l'Union nationale, voire vers Honoré Mercier. Donc, tu sais, ils sont à la recherche d'une légitimité historique.
D'un sens,
hein, pourrait-on dire. Puis parfois, ben, le sens, c'est en reculant sur la ligne du temps que là, on voit dans quelle direction ça mène. Cela étant, c'est étonnant de voir que le premier ministre actuel est plus tiède par rapport à l'indépendance que l'a été un premier ministre libéral, et là je ne parle pas de Jean Charest,
je parle bien
de Robert Bourassa, hein, qui disait que les Québécois devraient garder l'indépendance comme un joker dans leur manche, et en privé, il disait qu'il s'en servait davantage comme un couteau sur la gorge. Lorsque François Legault menace de tenir un référendum sur l'immigration pour bousculer Ottawa, il est davantage dans cette logique-là que même des premier ministre ouvertement fédéraliste ont osé utiliser. Et peut-être que l'intérêt supérieur du Québec est mieux servi par, hein, c'est une expression qu'on entend ces temps-ci à l'international, là, par un supplément d'ambiguïté stratégique. Si on ne sait pas où s'en va François Legault, ben, du point de vue du fédéral, disons, ben, on est peut-être obligé de travailler avec lui davantage. Là, en étant trop clair sur son positionnement par rapport à l'indépendance, peut-être qu'il rate une opportunité.
Intéressant. Rémi Villemur, toujours sur ce sujet, mais en allant un peu plus sur l'angle historique, là, notre collègue désormais des médias, Mario Dumont, qui fait un travail fort intéressant par ailleurs, aussi a eu un parcours politique fort intéressant, puisqu'il est aux origines de l'ADQ, évidemment, avec Jean Allaire et d'autres. Mario Dumont, évidemment, à l'occasion donc de ce 30e anniversaire de la fondation de l'ADQ, parce que c'est de ça dont on parle, en fait, là, au fond, derrière tout ce débat. Dumont, donc, revenait là-dessus dans le Journal de Montréal tout récemment. J'invite nos auditeurs à aller lire ce texte fort intéressant. Mais il dit, dans lequel il dit ceci, entre autres choses, il dit que à l'époque de la fondation de l'ADQ, les Québécois cherchaient une troisième voie. On pourrait même reprendre à peu près le discours de François Legault aujourd'hui, c'est-à-dire le référendum, mais l'indépendance, c'est un cul-de-sac. Le fédéralisme, c'était pas souhaitable. Et puis, on voulait véritablement une troisième voie. Et là, vraiment, c'est la troisième voie dans les deux sens qu'on a évoqués depuis le début de cette émission, c'est-à-dire entre le souverainisme et le fédéralisme, mais aussi une autre façon de gouverner le Québec que la façon social-démocrate, centre-gauche, ou enfin, une remise en question du modèle québécois, disons. Est-ce que, d'après vous, Dumont dit tout, ou est-ce que ce qu'il ne dit peut-être pas, c'est qu'il y avait aussi un créneau, si on voulait fonder un autre parti, il fallait toujours bien se trouver un créneau qui ne pouvait pas être l'un des deux autres, et que par conséquent, on a un peu aussi peut-être fait dans une sorte d'étude de marché politique. J'essaie de ne pas être inutilement sévère dans ma formulation. Qu'est-ce que vous en pensez?
La lecture de Dumont et la vôtre sont les bonnes. C'est-à-dire que...
Parce que plusieurs, je vais complémenter, plusieurs disaient à l'époque, mais c'est terrible, M. Dumont vient, au fond, diviser les forces nationalistes et souverainistes, en somme. Hein? Il va créer une sorte de brèche qui va nous affaiblir des deux côtés, si on veut. C'est dans ce sens-là que je vous posais la question.
Oui, tout à fait. Mais en fait, Mario Dumont a contribué à inventer cette troisième voie-là qui était demandée par les Québécois. Puis en ce moment, à la CAQ, il y a une illusion. Et là, c'est la grande désillusion. C'est-à-dire qu'il y a des caquistes qui pensent que cette troisième voie-là, elle est encore demandée par les Québécois. Et ils se basent évidemment sur l'élection de 2022, qui leur donne raison. Hein, les Québécois ont demandé à la CAQ de reprendre les commandes du bateau. Mais là, la troisième voie, elle n'est plus demandée comme elle l'était au lendemain du deuxième référendum, à partir des accommodements, la crise des accommodements raisonnables aussi, on est en 2007 à peu près. On n'est plus là. Les Québécois reviennent à cette façon de diviser la politique au Québec. Le schisme identitaire, c'est les fédéralistes et les souverainistes. C'est de là qu'on revient. Puis c'est pour ça que vous voyez en ce moment les libéraux, qui sont très mal pris sans chef, ne pas sembler être sur la panique que ça.
Hein? Non,
ils
n'ont
pas l'air d'être très nerveux. Ils n'ont pas l'air d'être nerveux parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Hein? Ils ne sont pas fous, là. Ils savent qu'on s'approche de l'élection 2026 et la question de l'urne sera en partie la question de l'indépendance parce que les péquistes s'affirment. Hein? Ils ont écouté un certain Nick Payne. Donc, ils s'affirment. Ils ont compris que c'est le véhicule pour eux et pour le parti et pour le Québec. Et on revient à l'idée de souverainisme fédéraliste. C'est la troisième voie va se fondre de part et d'autre, et je pense bien qu'elle se fondera. D'ailleurs, c'est déjà annoncé, ils s'en vont vers le rougisme, vers le fédéralisme.
Merci de reconnaître ma contribution au débat, Rémi Villemur. Ça me fait toujours du bien, vu que j'ai prêché seul dans le désert pendant des années. Mais c'est peut-être aussi un hasard que les choses aient tourné un peu dans le sens que j'appelais de tous mes voeux à une certaine époque. Mais Frédéric Lapointe, est-ce que les Québécois demandaient vraiment la troisième voie à ce point-là, ou est-ce que c'était une sorte de recours de pis-aller ou de, comment dire, de recours obligé? En fait, on ne savait plus où aller, en somme. Est-ce qu'on aurait pu, à l'époque où Mario Dumont fonde l'ADQ, plutôt se tourner vers un Lucien Bouchard qui aurait dit « Bon, écoutez, moi, je reprends le flambeau et nous allons mener le projet à terme », ce qui n'arrivait absolument pas,
exact,
en l'occurrence.
Exact. Et la troisième voie
C'est une question, ouais. Je ne prétends pas détenir la vérité en la posant. C'est vraiment une question, vous pouvez la voir comme une question orientée ou militante aussi, si vous voulez.
Oui, mais après 30 années de débats constitutionnels, si on se situe au début des années 2000, il y a une réelle fatigue. Fatigue du milieu politique, fatigue dans la population, puis tout ça, je veux dire, c'est vrai, quand on fait de l'agriculture, on met des terres en jachère, une des périodes de fatigue, c'est des périodes de régénération. Il y a eu une tentation au Parti québécois de choisir la troisième voie et, je vous le dis, parce que j'étais à l'époque au chantier programme de la saison des idées de Bernard Landry en 2004, avec qui d'autre que Pascal Mayotte, qui était...
Donc l'auteur de ce livre sur la troisième voie dont nous parlions au début.
Exact. Et à l'époque, Pascal Mayotte, qui travaillait pour le cabinet au cabinet du premier ministre, aux communications de Lucien Bouchard et de Bernard Landry, plaidait pour que nous fassions exactement comme Tony Blair a fait avec le socialisme dans le Parti travailliste anglais, c'est-à-dire abandonner les références au socialisme, au communisme. Et là, il disait, il faut faire quelque chose de cet ordre-là au Parti québécois.
Avec l'indépendance aussi.
Ben, c'est ça. Là, je lui disais, mais Pascal, qu'est-ce qu'on a à abandonner au juste qui est aussi central que le socialisme dans l'histoire du Parti travailliste? Et là, du bout des lèvres, là, on sentait bien que c'était l'engagement vers l'indépendance du Québec qui aurait dû être sacrifié sur l'autel de la renaissance du Parti québécois, ce qui était complètement absurde.
Mais c'est ce qui a été fait quand même. Ben, c'est-à-dire que Lucien Bouchard a mis le couvercle sur la marmite.
Oui, mais là, on est en 2004. Hein? On est déjà au-delà. Oui. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Évidemment, il y a toujours eu beaucoup de réserve ministérielle ou de prudence ministérielle de la part des chefs qui ont suivi, mais ce n'est pas la voie que le Parti québécois a sélectionnée. Puis Pascal Mayotte est allé vers la coalition Avenir Québec avec d'autres au sein du Parti québécois qui auraient été davantage de cette tentation qui a bel et bien eu lieu au Parti québécois.
Mais alors, d'après vous, est-ce que Mario Dumont a véritablement répondu à un besoin ou est-ce qu'il a tout autant exploité un filon? Est-ce qu'on pouvait, à l'époque, vraiment penser que la troisième voie était viable, au fond, pouvait apporter des résultats? Plusieurs disaient que non, hein, s'en moquaient même. Puis il faut franchement admettre que ce qui se passe actuellement leur donne raison de façon assez spectaculaire. Les gains à l'intérieur du Canada sont à peu près, dire inexistants.
En fait, la principale...
La DQ voulait faire la déclaration de l'État autonome du Québec, des choses comme ça. On est loin de là un peu.
Oui, on a amendé unilatéralement la Constitution canadienne.
C'est vrai.
C'est pas une mince innovation.
C'est pas une petite affaire.
On peut adresser des félicitations pour plusieurs projets de loi aussi. D'ailleurs, donc on fera un jour le bilan de la CAQ comme parti de gouvernement, puis on aura certainement également des mots doux à leur formuler. Mais il reste que la principale contribution de la création de la DQ et de la CAQ par la suite, c'est d'ouvrir le jeu politique. On ne se souvient plus au Québec, c'était quoi le bipartisme? Hein, le bipartisme, là, c'est d'une part des gens qui
Dumont
se pointent
du doigt.
Dumont
en parle beaucoup dans son texte, d'ailleurs. Il dit ça suffisait, le bipartisme.
Exact. Donc, à la fois...
Et il a fallu aménager, casser un peu, dit-il, le système et les habitudes pour...
Ça a ouvert la voie à d'autres partis, Québec solidaire, le Parti conservateur. Et donc, dans une situation de bipartisme, les gens se s'identifient par la couleur et se campent. Ils ne magasinent pas. Donc, ils se campent là, ça devient partie de leur identité. Le marché politique devient moins fluide. Et là, comme il y a juste 5-10% d'électeurs indécis là, qui changent d'idée, toute l'attention politique est sur ces 5-10% d'indécis. Ça devient tentant de faire quoi pour gagner l'espèce de tir au poignet constant? Ça devient tentant de tricher parce que le marché politique n'est pas suffisamment fluide. Donc, ça entraîne toutes sortes de problèmes. Le bipartisme, moi, j'ai tendance à être raisonnablement heureux de voir que même si on n'a pas réformé le mode du scrutin, on a une offre politique très diversifiée, puis c'est un peu grâce à la DQ.
En terminant sur le sujet, Rémi Villemur, de la peut-être malgré tout moins pire des options pour le Québec, c'est-à-dire la troisième voie, est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, pour dire que au moins ça a eu le bénéfice, en tout cas, de briser le bipartisme à Québec et que ça, c'est une bonne chose?
Oui, il y a ça, mais en fait, il faut être encore plus généreux.
Parce que comme souverainiste, vous pourriez dire non. Vous pourriez dire, l'Assemblée nationale est plus éclatée, puis c'est plus compliqué de former un gouvernement qui serait en l'occurrence souverainiste ici, par exemple.
Oui, je veux bien, sauf que, si c'est ce que les Québécois voulaient, je me verrais mal vous dire en ce moment, c'est peut-être une mauvaise chose. Écoutez, ils ont eu l'offre politique qu'ils avaient exigée et il faut quand même redonner à César ce qui revient à César. François Legault, là, évitons de parler de Mario Dumont un instant. Mettons, François Legault a quand même fait avancer la cause nationaliste au Québec, a ramené la question de la laïcité, la question de l'immigration, même s'il s'en est pas occupé du tout, à un niveau où on ne pensait même plus qu'on allait discuter de ces choses-là au Québec. Là. Les péquistes...
Vous avez raison. Comme dit Frédéric Lapointe, d'ailleurs, on fera l'éloge en temps et lieu, sans doute. On l'a fait beaucoup quand même dans cette émission pendant les premières années, alors que le gouvernement Legault était très populaire aussi. Hein?
Absolument.
Bon, maintenant, là, il est de bon ton de mise de critiquer, parce que c'est vrai que ça va moins bien, mais donc je vous suis là-dessus, en effet.
Oui, tout à fait. Écoutez, il faut lui donner. Un jour, on va se souvenir de François Legault pour ça. Quand il va quitter la vie politique en 2026, on va se rappeler que c'est lui, à la manière un peu d'un Daniel Johnson, avant que l'évêque prenne le pouvoir 8 ans plus tard, qui aura amené ces questions-là, c'est lui qui aura, en quelque part, redéfricher ces terres-là. Et un petit commentaire aussi sur la question de la fatigue. Hein. C'est vrai que nous étions fatigués au lendemain du second référendum, sauf que la fatigue culturelle, là, les Canadiens-Français, ça date de bien plus longtemps que ça. On est fatigués depuis très longtemps au Québec. Hein. Moi, je disais cette semaine, je faisais une plongée dans les archives du Devoir. Je suis tombé sur un échange. J'invite les gens à aller consulter ça. Là. C'est entre André Laurendeau et le jeune Pierre Bourgault au début des années 60. Pierre Bourgault dit à M. Laurendeau, on est fatigués de se battre, on est fatigué de se faire dire qu'il faut qu'on soit des héros tous les jours pour survivre dans le Canada, faisons-nous un pays. Donc la meilleure manière de renoncer à la fatigue et de retrouver de l'énergie, vous la connaissez.
Oui, donc ce serait le meilleur repos, en somme, dites-vous, ouais. Rémi Villemur.
La meilleure des moins pires solutions.
Oui, c'est ça. Ben, ça revient à ce qu'on disait. Donc, je répète pour une dernière fois, peut-être la troisième voie représente peut-être malgré tout la moins pire des options pour le Québec. C'est François Legault qui disait ça cette semaine. Restons, Frédéric Lapointe, sur le sujet de la CAQ. Québec 125, un agrégateur de sondages qui n'est pas un... C'est pas, des gens qui disent la bonne aventure, hein, ou qui lisent dans les... Alors, ils prennent la tendance de tous les sondages plus ou moins récents. Ils font des moyennes avec ça. Ils font des calculs. Ils se fondent sur l'historique de chacun des comtés. On additionne, on divise, on soustrait, on multiplie. Puis on arrive à des projections de sièges qui, globalement, dans les dernières élections, se sont avérées assez... passablement exactes, assez précises. Oui. Et là, ce qu'on prévoit pour la CAQ à la lumière de la tendance actuelle, si on veut, c'est quelque chose comme 11 élus aux prochaines élections. Un seul élu dans le pire des scénarios, d'ailleurs, qui serait François Legault, incidemment. Là, ça va pas très bien.
Et qui ne le sera pas, puisqu'on peut penser qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection.
Oui, c'est ça.
C'est des résultats de premier ministre,
ça,
là.
Ça veut donc dire personne.
Dans le pire
des scénarios.
Mais c'est pas impossible.
11 élus, disons. Ouais. Le Parti québécois, très solidement majoritaire là-dedans. Ça va. La CAQ derrière, hein, je pense en quatrième ou troisième position, je ne sais plus. Est-ce que la tendance peut encore être renversée pour les caquistes, d'après vous?
Ah, moi, je n'y crois pas. Hein. Ça fait quelques temps que je le dis. Lorsque le gouvernement j'oserais dire, casse la roue de sa charrette, c'est fini. Ça ne rebondit pas. En particulier lorsqu'il y a d'autres options crédibles. Un gouvernement qui est impopulaire peut toujours dire, ben mes opposants, mon opposant principal, mon opposant unique, est pire. Et donc, je suis le moins pire, hein, pour reprendre un clin d'œil.
Peut-être malgré tout.
Peut-être malgré tout. Mais là, il y a 4 autres options, dont 2-3 sont des options de gouvernement. Donc, même si le Parti québécois, parce que ça peut arriver sans faire genre ses souliers, se met à être mesquin,
qu'on appelle une loi Françoise David.
Exemple. Oui. Bon, il y a des choses comme ça qui peuvent altérer, user une popularité, user un vernis.
On y reviendra pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité cette semaine.
Mais il y a d'autres options. Donc, même si le gouvernement s'en fâche, mais là, c'est le Parti libéral qui va être l'alternative. Si le Parti libéral s'en fâche, QS est là. Donc, quand le gouvernement tombe en désamour, s'il y a plusieurs autres options, bien, c'est un peu terminé. Donc, moi, je les invite à gouverner au mieux, hein, pour le temps qui leur reste. L'intérêt supérieur du Québec peut être bien servi pour ça. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent tomber à 0 siège? La réponse est oui. C'est un peu la caractéristique de notre système, de notre régime électoral. Lorsqu'on peut gagner le scrutin avec 35 ou 40 % des voix, avoir 90 sièges, bien, lorsqu'on est remplacé par un autre, hein, qui vient dans ses mêmes tales, parce que c'est le cas du Parti québécois, ben on dégonfle aussi vite qu'on a gonflé, là. C'est malheureusement pour eux le terrain politique sur lequel ils jouent. Pour les nationalistes, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que de remplacer complètement l'un par l'autre assure un gouvernement majoritaire d'orientation similaire. C'est plus difficile pour Québec solidaire ou le Parti libéral ou même le Parti conservateur, qui ont des châteaux forts, mais qui sont concentrés géographiquement, c'est plus dur pour eux d'obtenir un résultat majoritaire.
On perd, hein, l'habitude ou de vue, en fait, l'idée qu'un gouvernement, qu'un parti peut être rayé de la carte, électoralement parlant, peut-être parce que, à cause de la situation politique, on a les libéraux qui sont, eux, indélébiles dans le décor, même sans chef, sans programme.
Mais sans possibilité de faire le gouvernement.
Ils restent dans les intentions de vote. C'est vrai, ouais. Mais ils vont faire élire quelqu'un quand même.
Oh, ils vont en avoir 20-30.
Ben voilà. Ouais. Rémi Villemur, est-ce que c'est vraiment... Tout ça est seulement dû à des contre-performances de la CAQ ou est-ce qu'on observe ce phénomène qui fait que parfois les sondages qui sont des thermomètres se transforment en thermostats? Et là, la roue tourne, la boule de neige grossit et ne fait que s'auto... La prophétie s'auto-réalise sans fin. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, en tout respect, moi je trouve que ce débat-là commence à être un petit peu inutile. On se pose cette question-là depuis des mois. Est-ce que le succès du PQ est dû aux insuccès de la CAQ? Est-ce que le succès du PQ est dû au succès en soi du PQ?
Alors, je vous demande si les insuccès de la CAQ sont dus aux insuccès de la CAQ, essentiellement.
Ouais, c'est une autre question tout aussi intéressante. Non, mais écoutez, Sûrement, mais en fait, l'important, bon, si on est souverainiste, c'est de voir que les PQ le PQ progresse, puis le danger, si on est caquiste, c'est de considérer qu'ils perdent. Donc, peu importe, la politique, vous savez, c'est moins profond qu'on le pense. Souvent, les gens sont en colère, effectivement. Ils voient que la CAQ ne répond pas ne livre pas la marchandise, elle ne répond pas aux exigences qu'elle s'était données à elle-même, et le PQ monte, vous savez. Et c'est important ce que vous venez de soulever aussi. Le PQ rentre dans une zone en ce moment où il pourrait commettre des erreurs. Et là, il est surveillé. Ça, on nous l'avait dit déjà il y a quelques mois. Maintenant, quand vous êtes numéro un dans les sondages, c'est vous qu'on regarde. C'est même plus vraiment François Legault. On est habitué. C'est comme une espèce, c'est comme un film de Louis de Funès ou plutôt de Charlie Chaplin. Là, il échappe tout ce qu'il met dans ses mains. Il tombe à terre, il se pète la gueule. On rit en arrière avec des rires en canne. Ça, c'est l'histoire de François Legault en ce moment. Mais c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui est devenu le personnage sérieux du film politique québécois.
C'est vraiment le personnage. Et... hein, c'est le premier ministre, notre faux premier ministre, le premier ministre en attente, celui au sujet duquel on aime jouer à ce qu'il... faire comme s'il était aux affaires, pratiquement.
Ben, exactement. Et il est chef de l'opposition. Donc là, il a un travail très difficile parce qu'il doit remplir ses fonctions de chef de l'opposition, mais il doit aussi remplir les fonctions de premier ministre d'une certaine façon. Il doit démontrer qu'il est premier ministrable. Et c'est dans les détails. Moi, petite anecdote, la semaine dernière, j'étais dans la famille, puis quelqu'un m'a dit « Ah, je suis un peu tanné de voir Saint-Pierre Plamondon pleurer. » J'ai l'impression que, parce que Saint-Pierre Plamondon avait pleuré devant les journalistes.
C'était plein aussi là, que les journalistes n'obtempèrent pas
oui,
à ses demandes de poser des questions sur les menaces dont il a fait l'objet de telle ou telle façon, ça ne lui avait pas plu.
Et le commentaire venait de quelqu'un qui commence à réfléchir à comment il va voter en 2026. Et là, il regarde plus Saint-Pierre Plamondon comme un chef de l'opposition, il le regarde comme un candidat premier ministrable. Donc là, maintenant, il doit agir de cette façon-là, tout en remplissant ses fonctions. Il y a beaucoup de pain sur la planche.
Alors, Rémi Villemur, vous avez vous-même décrété que le sujet précédent n'était pas intéressant, les projections de siège de la CAQ, et vous nous avez amené vers le sujet qui était justement notre prochain sujet. Restons-y, Rémi Villemur.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais moi, ça fait mon affaire, moi aussi. On a assez parlé de sondage pour aujourd'hui. Je reste avec vous, Rémi Villemur, ça vous apprendra. Paul Saint-Pierre Plamondon, donc le défi qui est aujourd'hui le sien d'être beaucoup plus scruté, et probablement d'être aussi l'objet de davantage peut-être de suspicions. Là, on va plus se poser des questions sur l'homme, sur sa façon de faire les choses. Il y a ce débat un peu étrange cette semaine autour d'une loi sur la protection des locataires. Là. Loi que les gens de Québec solidaire veulent appeler « loi Françoise David ». Plutôt que par son numéro 198 pour l'instant. Là, c'est un projet de loi donc visant à élargir un projet déposé en 2016 par Mme David, incidemment. Et pour Paul Saint-Pierre Plamondon, je le cite, il dit « La loi ne s'appelle pas la loi Françoise David. Y a-t-il une loi Véronique Yvon en matière de fin de vie? Y a-t-il une loi Pauline Marois, peut-être sur les garderies, par exemple, ou la déconfessionnalisation des commissions scolaires? Est-ce qu'on devrait appeler la loi en matière d'habitation la loi Duranceau? » Alors, lui, il dit par principe, il faut pas appeler ça Françoise David. Il faut appeler la loi par son numéro de projet puis son numéro de loi ensuite. Est-ce que vous trouvez que Saint-Pierre Plamondon s'est enferré dans une mauvaise cause ici? Est-ce que c'est une première craque dans son vernis? Est-ce qu'il est, il cafouille un peu sous la pression? Comment vous voyez ça?
Ben, c'est un cafouillage. Effectivement, c'est un cafouillage parce qu'il a raison. Écoutez, on n'est pas à Cuba, là. On va pas commencer à...
Vous dites c'est un cafouillage parce qu'il a raison. Mais alors,
peut-être a-t-il raison.
Justement?
Oui, mais c'est parce que vous savez, en politique, c'est pas tout à fait important d'avoir toujours raison. Là. Des fois, il faut garder le silence. Là. Parce que là, comme la façon que c'est récupéré par les médias, c'est comme s'il faisait preuve d'ingratitude. C'est comme s'il essayait d'être un petit peu autoritaire, de refuser à Québec solidaire de leur donner un petit bonbon.
Par partisanerie, oui, c'est ça.
Alors, oui, tout à fait. Alors qu'il y a comme aussi, en même temps, il y a une espèce de rapprochement là entre Québec solidaire et le PQ. On pourrait en discuter aussi là, depuis quelques semaines. Et là, ça apparaît comme un geste un peu... inélégant, discourtois, un peu ingrat. Mais dans les faits, c'est tout à fait, il a tout à fait raison. Là. On va pas commencer à appeler les lois par le nom des personnes qui sont à l'origine de ces lois-là. On n'est pas dans un régime autoritaire là mais c'est pas important d'avoir raison sur cette question-là. Vous savez, c'est tout est là le défi de la communication. Mais quand on est rendu à être le plus observé des personnages politiques au Québec, on fait inévitablement des erreurs. On échappe inévitablement à un œuf et on le ramasse le plus vite possible et on continue d'avancer. Moi, je suis pas inquiet. Je veux dire, c'est pas, on s'en fiche un peu. Là. Vous savez, dans deux semaines, on n'en parlera plus du tout.
Non, mais ça s'ajoute à cette séance larmoyante dont vous parliez à l'instant, dans laquelle Saint-Pierre Plamondon, à la rigueur, avait peut-être encore raison, remarquez. Mais...
Oui, il avait raison. Oui. Il avait raison, mais comme je vous dis, c'est pas, il faut pas toujours avoir raison. Des fois, il faut juste s'incliner. De toute façon, il était pas question d'appeler la loi de cette façon-là dans les livres de loi. Il était juste question de tolérer l'idée qu'on puisse parler de cette. D'ailleurs, on dit la loi Véronique Yvon. Moi, je l'entends cette expression-là constamment, puis ça pose pas un problème. Ça posera un problème si effectivement on ne lui donnera pas un numéro, mais on va lui donner plutôt un nom.
C'est toujours bien moins drôle que la fameuse taxe de bienvenue qui venait en fait de Monsieur Bienvenue,
ben oui.
Frédéric Lapointe, mais puis qui n'est pas vraiment une belle façon de souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui s'installe dans une municipalité. Mais revenons à ce que disait Rémi Villemur, qui nous dit « bonne cause, mauvais combat » dans ce cas-ci, pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais j'ai envie de vous dire, Frédéric Lapointe, peut-être que c'est le Plamondon qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est l'homme de principe. Hein, c'est vraiment un homme de principe et de symbole. On le connaît comme ça là, depuis le début, depuis qu'il est connu désormais en politique. Et puis lui, ben, ici, il dit « non, ça ne marche pas, ça, on ne donne pas des noms de personnes à des lois, jusqu'où on va aller avec ça? »
Ouais, je suis tenté de faire un rapprochement entre cette réaction et celle envers Émile Bilodeau lors des dernières fêtes nationales. Disons que leur...
Là, vous êtes en conflit d'intérêts,
oui,
par exemple.
Oui, je l'avoue. Mais disons qu'avec Québec solidaire...
Parce que rappelons à nos auditeurs que vous êtes président du mouvement national des Québécois. Voilà. C'est vous qui avez engagé Émile Bilodeau.
Alors, j'ai goûté à l'impatience et au caractère agacé ou courroucé.
Vous aussi avez connu la notion des combats qu'on choisit et d'avoir raison ou pas.
Voilà, voilà. Et dans le cas qui nous occupe, ben, c'est Québec solidaire qui est impliqué. Hein? Et il y a toujours, disons, la peau est mince hein, dans les relations là, entre Québec solidaire et le Parti québécois.
Ben, est-ce qu'il se peut justement que Québec solidaire fasse de la partisanerie avec ça et essaie de sauter sur l'occasion pour laisser une marque?
Écoutez, sur le plan tactique, ils auraient probablement raison de continuer à le faire hein, parce que ça provoque des mauvaises réactions du côté du Parti québécois, des réactions qui les font mal paraître puis qui peuvent potentiellement leur coûter cher. Sinon, sur le fond de l'affaire, écoutez, Québec solidaire n'a jamais gouverné, alors ils n'ont pas beaucoup de projets de loi à leur crédit. Ils ne gouverneront pas avant 2034, alors qu'ils aient un ou deux projets de loi.
Ça,
du
c'est
nom...
dans votre agrégateur à vous.
Je fais mes prédictions 15 ans d'avance, puis on sera encore là pour les valider. Mais qu'ils aient un ou deux projets de loi du nom d'un ou deux de leurs leaders historiques, faut le concéder. Là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme
bon
de passe-droit, là? D'abord, on va parler de la loi Camille Lorrain aussi.
Ça arrive. C'est une tradition peut-être un peu plus française que québécoise que de parler de la loi Pasqua, loi
Veil,
loi etc. C'est pas inédit là, dans la francophonie. Là. Je pense pas qu'il y a de quoi fouetter un chat.
Intéressant. Mais donc, vous diriez vous aussi mauvais combat pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
C'est un mauvais arc réflexe. Je suis pas sûr que c'est réfléchi. Je pense que c'est juste un réflexe. Lorsqu'il est question de Québec solidaire qui a de l'importance ou qui gagne de la visibilité, ils sont rapidement agacés.
Oui, pourtant, ils devraient l'être moins ces temps-ci. Ça va tellement mieux pour eux
dans les sondages. C'est tentant de se comporter comme la force montante, le quatrième parti qui monte. Mais là, ils ne sont plus le quatrième parti qui monte, ils sont le gouvernement en attente. Alors, c'est pas tout à fait la même attitude.
Et seriez-vous, petit détail en terminant là-dessus, d'accord avec Rémi Villemur qui disait à l'instant que sur l'autre sujet là, sur lequel Paul Saint-Pierre Plamondon a un peu moins bien paru il y a quelques jours, donc ce refus des journalistes d'obtempérer à ses demandes à lui. Rémi Villemur là-dessus dit Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, avait raison, mais a mené le mauvais combat. Pensez-vous qu'il avait raison vraiment? Est-ce que les politiques peuvent commencer à dire aux journalistes les questions qu'ils doivent leur poser, même si on en appelle, c'est pour des raisons d'éthique ou de morale?
Moi je pense que toute personne est légitime de voir son intégrité respectée, son intégrité émotionnelle, physique, hein, même si on est en politique, que des questions d'ordre privé il n'est pas encore premier ministre, qu'il y a des menaces sur sa famille, ce n'est pas nécessairement un sujet de discussion qu'il pourrait vouloir aborder.
Ben, c'est-à-dire l'éditorialiste en chef de la presse...
lui a dit le contraire.
Est-ce que c'est le patron, je ne sais plus, François Cardinal, François lui a dit, écoutez, ouais. Vous êtes menacé parce que vous êtes chef politique, par conséquent, nous avons raison de vouloir parler de cette question-là. C'est à peu près ce qu'il disait.
Ouais, mais
c'est quand même un bon argument.
Il y a un débat là. On pourrait aussi lui reprocher s'il avait adopté la posture complètement contraire de l'exploiter politiquement.
Parce qu'à cette émission, il y a une semaine ou deux, on se désolait de ne pas parler du geste de Richard Henry Bain comme étant un attentat politique.
Vrai. Mais tout ça pour dire que s'il y a un profit politique, on peut avoir des gens qui disent « Ah, je le trouve trop sensible hein? », mais je pense qu'ultimement, d'avoir accès aux réactions naturelles du leader et des réactions naturelles au sens où un homme du commun aurait peut-être la même réaction, hein, de savoir qu'on n'a pas affaire à un robot, de savoir qu'on a affaire à un humain, je pense qu'ultimement, c'est gagnant. Parmi les leaders politiques extrêmement populaires qu'on a eu au Québec, il y a eu des hommes très faillibles. L'un d'eux est René Lévesque lui-même. Et je me souviens qu'il n'était pas particulièrement dans la retenue quand venait le temps d'exprimer ses émotions, en particulier des émotions liées à la faiblesse ou au fait d'être affecté, etc., etc. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de conséquences politiques à ça, mais je reconnais, moi, qu'un homme politique puisse vouloir avoir un peu plus de contrôle sur ce qui lui arrive dans sa sphère privée.
Quelques sujets, Rémi Villemur, le temps nous bouscule un peu, on va couvrir ces sujets-là un peu plus rapidement, peut-être pas tous, là, mais en voici un, par exemple. François Legault promettait de réduire la taille de la fonction publique lorsqu'il était dans l'opposition. Il en a fait vraiment un mantra, hein, et puis il se moquait de ses fonctionnaires qui écrivent des rapports pour que d'autres fonctionnaires lise les rapports et fasse d'autres rapports pour être... Bon, voyez. Et puis finalement, bilan des courses, la fonction publique québécoise a grossi de près de 15 % depuis que la CAQ est aux affaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est le test de la réalité ou bien c'est la démonstration de ce que les caquistes sont des sociodémocrates comme les péquistes, au fond?
Non, je pense que c'est le test de la réalité. Je pense que c'est très compliqué... même quand on a de bonnes intentions, et ces intentions-là en particulier, de passer à l'action puis d'avoir gain de cause. Le Québec est une société hyper fonctionnaire. Là, c'est une société qui a fait ce choix-là. C'est pas un choix que je défends totalement, je vous dirais, là, surtout dans les conditions économiques actuelles. Mais je pense que n'importe quel gouvernement serait arrivé à ce résultat-là, à part peut-être un gouvernement d'Éric Duhaime. Mais là, écoutez, Frédéric Lapointe parlait d'un horizon 2034 pour Québec solidaire. Je pense que pour Éric Duhaime, on est plus dans 3034. Là.
Ah oui, donc ils sont vaccinés contre le pouvoir, les conservateurs.
Ben là, écoutez, on est vraiment dans l'hypothétique avec un grand H. Là. Ouais. Donc, écoutez, c'est très compliqué. Moi, si j'étais dans l'opposition en ce moment, j'essaierais de pas trop insister sur cette donnée-là qui nous a été révélée cette semaine, parce que n'importe quel gouvernement serait arrivé à un résultat pareil. On peut même imaginer que c'est la moins pire des options, hein, si on reprend cette expression-là. Peut-être qu'avec un gouvernement libéral ou un gouvernement péquiste, on aurait eu encore plus de fonctionnaires. Je pense qu'ils ont essayé, mais que c'est à peu près impossible de réussir ça.
Parmi, Frédéric Lapointe, les raisons évoquées par le gouvernement, il y a Sonia Lebel qui disait, ben, entre autres, pour la francisation des immigrants, on a dû embaucher. Alors, ce qui vient nous rappeler que le gouvernement du Québec n'est pas un gouvernement provincial comme les autres. Hein? Il a un rôle de défense des intérêts nationaux à jouer. Et par conséquent, ça explique peut-être aussi sa taille surdimensionnée par rapport à d'autres gouvernements du même ordre, du même palier. Est-ce que c'est ça qui vient jouer aussi?
On est davantage présent sur la scène internationale, par exemple, que ne peuvent l'être les autres provinces. On a un secteur culturel beaucoup plus développé que les autres provinces. Je ne sais même pas s'ils ont un secteur culturel en propre. Mais surtout, retenez ceci, quand un parti réfléchit à son orientation politique et à sa plateforme, malheureusement, ils vont avoir l'opportunité de la mettre en œuvre 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Et
parce que ça prend du temps à gagner le pouvoir.
Ouais. Là, écoutez, François Legault a mis 10 ans à être premier ministre, puis là, on est dans sa 5e ou 6e année. Donc, entre le moment où il se donne une orientation et aujourd'hui, il s'est écoulé 15 ans. Et les calculs qui ont été faits il y a 15 ans peuvent ne pas être bons pour aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé entre les deux? Ben, on a ajouté 1 million de personnes de plus que prévu à la population du Québec. Il va s'en ajouter 1 autre million là, dans les 5 à 10 prochaines années. Alors, si on pense que dans ce contexte-là, on est capable de réduire le nombre de profs, de techniciennes en garderie, de médecins, d'infirmières, ben non, on est en train de vivre une explosion démographique comme on n'en a pas vu depuis l'après-guerre. Donc, forcément, l'État est dans une position où il doit investir un peu tout azimut, qui doit former des gens pour qu'ils puissent devenir des serviteurs dans nos services publics. Et donc, les calculs d'il y a 15 ans sont simplement impertinents. Le problème que la CAQ a vécu, c'est qu'ils ont en même temps promis des baisses d'impôts il y a 10 ou 15 ans, et les baisses d'impôts, ils les ont offertes. Donc, vous avez baisse d'impôts d'un côté, investissement dans les services publics de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris que le déficit s'en aille en grandissant? C'est la conséquence mécanique, là.
Mais est-ce que tout ça ne nourrit quand même pas le cynisme envers la politique? C'est tellement un grand classique, je vous promets de réduire la taille de l'État. Pouf, il explose.
Ben voilà, c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant il faut se souvenir qu'entre le moment où les promesses sont faites et le moment où elles sont les gens sont en position de les remplir, ben on change de galaxie. Là. T'sais, 5, 10 ans, 15 ans, là, les astres se sont désalignés et donc, ben malheureusement, c'est pas une bonne idée de remplir toutes ces promesses quand elles deviennent obsolètes.
Rémi Villemur, rapidement, motion à l'Assemblée nationale sur le temps sur le rapport entre nos jeunes et les écrans. Hein, puis la CAQ refuse de voter la motion. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon qui était à la manœuvre là-dessus. Pourquoi les choses ont tourné comme ça, d'après vous? Ah!
Je vous ai voté.
Vous étiez disparu, vous êtes revenu. Allez-y.
Oui. Alors, pour la même raison que la CAQ avait refusé de voter la motion en lien avec le cellulaire en classe, c'est que, d'après moi, on se prépare à un projet de loi. On se prépare à agir et on veut garder le rôle innovateur, le rôle du responsable. Donc, dans ce cas-là, si en bout de ligne, en fin de compte, ce qui nous attend, c'est une législation sur le temps d'écran, ben, écoutez, on aura eu le bien en résultat, en cadeau. En chemin, on pense que la CAQ essaye de jouer cochon. Mais j'espère seulement que c'est la même issue qui nous attend.
Vous ne voulez pas, au fond, donner la paternité de ça? On ne voulait pas que ça devienne la loi PSPP, finalement?
Oui, exactement.
Frédéric Lapointe, le fameux le jeu des motions de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a tellement de motions qu'on pourrait publier un bottin téléphonique, les pages jaunes des motions de l'Assemblée nationale à chaque année. Et puis, on constate que, au fond, ce sont la plupart du temps des manœuvres pour forcer l'un à voter contre ce avec quoi, en principe, il devrait être d'accord et puis ça finit jamais. Est-ce que ça sert à quelque chose? Puis je parlais du cynisme là, qu'on entretient. Est-ce que cette espèce de chorégraphie-là n'est pas aussi au nombre des éléments qui entretiennent le cynisme envers la classe politique?
Non, moi, je pense que c'est un instrument de débat public intéressant.
Oui.
Toutes les motions ne sont pas discutées publiquement. Mais si on avait comme opportunité de débat public que la période de questions, hein, qui elle-même peut être grotesque à l'occasion.
Oui.
Hein?
Il donne une sorte de non-lieu. Ou de...
Ben, c'est ça. On appelle ça la période des questions et non pas la période des réponses pour toutes sortes de raisons. Non. Moi, je pense que ça ajoute de la diversité dans la discussion parlementaire. Évidemment, les discussions les plus intéressantes qui se produisent au Parlement ne sont pas à l'Assemblée, dans la Chambre où l'ensemble des députés sont réunis, mais dans les commissions parlementaires. C'est des débats d'initiés, mais c'est là que ça se passe.
Alors, vous dites que ça sert à quelque chose. Ça sert à faire avancer le débat. Mais dans ce cas, il faut instruire peut-être nos concitoyens qui suivent moins la politique en leur disant, Frédéric Lapointe, lorsque dans un débat des chefs, vous allez entendre machin dire un truc, ben vous avez voté contre telle affaire, il faut prendre ça avec un grain de sel, sachant fort bien que...
C'est manufacturé oui. D'avance. Oui, tout à fait.
D'accord avec ça, Rémi Villemur?
Oui, tout à fait. Ben, c'est un espèce de champ politique qui est très ignoré. On comprend pas c'est quoi exactement le commun des mortels, mais c'est très important, ça fait avancer les choses. Puis des fois, il faut pas trop s'intéresser à qui a refusé, qui a accepté ça, parce que c'est souvent une question de mots. Si c'est un mot qui fait en sorte que ça achoppe, mais dans ce cas-là, vraiment, je pense vraiment que c'est que la CAQ prépare quelque chose dans l'ombre.
Rémi Villemur, on reste avec vous. Il s'est passé quelque chose de très intéressant à Ottawa dans les derniers jours, enfin, en politique fédérale. Contrairement à ses prédécesseurs et aux gens de nombreux partis politiques, Pierre Poilievre a décidé d'attaquer le Bloc québécois sur son bilan et sur l'axe gauche-droite, plutôt que faire comme... Souvenons-nous du sénateur Michael Fortier qui était parti en campagne électorale fédérale avec son autobus anti-bloc pour dire ce que tous disent tout le temps. Hein, le bloc, ça sert à rien. Le bloc, c'est là juste pour bloquer. Le bloc ne peut pas prendre le pouvoir. Et puis, ben, comme tous ceux qui ont adopté ce discours, ils s'étaient magistralement cassés la gueule avec ça. Les bloquistes avaient eu beaucoup de votes à cette élection-là. Est-ce que Pierre Poilievre vient de trouver la solution? Là? C'est-à-dire, surtout pour un conservateur, il montre... Alors, ce qu'il a cherché à faire, c'est de montrer que les bloquistes ont appuyé nombre de mesures très à gauche des libéraux de Trudeau. Par exemple, l'assouplissement de certaines règles quant aux libérations conditionnelles, partant du principe que s'il y a plus de gens de telle ou telle communauté dans les prisons, c'est à cause du racisme systémique, et etc. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tactique de Poilievre?
Pierre Poilievre, là, c'est la crypto-monnaie de la politique canadienne.
C'est un bon choix de mots.
C'est un personnage virtuel, c'est une bulle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, ce qu'il propose. Il erre, on ne le voit pas dans les médias. Yves-François Blanchet lui a lancé une invitation, il a refusé.
À aller débattre, hein, suite à ça. Mais vous pensez quand même que Poilievre, cette monnaie virtuelle, n'a pas frappé un coup de circuit en disant ben le Bloc, est-ce que c'est un parti souverainiste ou c'est un parti de la gauche fédérale qui a déjà failli d'ailleurs prendre part à une coalition de gouvernement avec le NPD et Stéphane Dion?
S'il a frappé un coup de circuit, c'est avec sa lunette de réalité virtuelle dans son sous-sol. Écoutez, c'est parce que on se moque, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que on ne sait pas encore quel est l'effet Poilievre. Quand il y aura campagne électorale et qu'il aura Yves-François Blanchet devant lui, qui va lui poser des questions et des questions auxquelles il va être obligé de répondre, là, on va voir si effectivement il est en mesure de frapper un coup de circuit. Pour le moment, il lance des attaques, mais on lui répond et il ne répond jamais ou à la réponse qu'on lui offre. Donc, pour moi, il y a une faillite en ce moment de démonstration chez lui. Il y a certainement des gens qui sont convaincus par ses arguments. Mais on n'est pas encore rendu en campagne électorale. On regarde dans les sondages, puisque c'est le seul indicateur qu'on a en ce moment, ils font très peu de progrès au Canada, au Québec, excusez-moi. Donc, pour moi, en ce moment, on est vraiment dans l'hypothétique avec lui.
Ah, vous ne pensez pas, vous, Frédéric Lapointe, que, évidemment, le coup de circuit, l'image est sans doute trop forte, mais on ouvre un espace de débat. Le simple fait d'avoir posé la question, même si Rémi Villemur nous dit, à la suite de ça, Poilievre a refusé le débat, le simple fait d'avoir soulevé l'interrogation, n'est-il pas une sorte de réussite pour les conservateurs fédéraux?
Bien, ils sont dans leur modus operandi, qui est de s'appuyer sur une partie de la population qui rejetterait l'ensemble du système ou l'ensemble des options. Et en associant le Bloc québécois au gouvernement Trudeau, là, c'est jouer un peu dans leur tactique habituelle. Maintenant...
Oui, c'est grossir le trait.
Pour reprendre ce que je disais sur le Parti québécois, mais en considérant les conservateurs cette fois-ci, ils ne sont plus le parti d'opposition qui revient de loin, qui prend de la force. Ils sont le gouvernement en attente. Hein. Les projections leur donnent plus de 200 sièges, un gouvernement majoritaire. Et là, moi, je serais tenté
d'interroger... Même si le chef est un peu Bitcoin. Hein?
Même si le chef est un peu Bitcoin, je serais tenté de dire, ben, monsieur Poilievre, c'est vraiment tout ce que vous avez à dire au Québec? Dans la période de l'histoire où nous sommes,
mais justement, est-ce que c'est pas ça le génie
d'un
plutôt
référendum?
Que de se lancer dans le discours de Coaticook ou de je ne sais où on va faire des grandes promesses au Québec dont tout le monde a fini par se foutre avec les années, plutôt que de faire ça, on ne promet rien puis on dit ben le Bloc, vous votez pour un parti de gauche.
Ouais, il y a de fortes chances qu'il ne récolte rien et que au lendemain de son élection, puisque personne n'aura une idée claire de son projet, la légitimité de ses interventions, elle sera faible, hein, parce que être élu, c'est être élu sur un projet avec le mandat de le réaliser.
Alors, c'est
assez, quoi
là,
le projet conservateur là, pour le Québec? Voilà. On le connaît pas.
Toujours pas de substance, donc. Très intéressant. Rémi Villemur, vous êtes au bout du fil. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce midi. Joyeuse Pâques à vous.
À vous aussi.
Et à vous aussi, Frédéric Lapointe. Merci d'avoir été avec nous ce midi.
À bientôt.
Profitez de cette belle météo qui embrasse le Québec en ce moment. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Lysandre Duplay à la mise en onde. Joyeuse Pâques à vous tous. Et à samedi prochain, même heure, même poste.